le magazine des Nations Unies.
Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro du magazine des Nations Unies, dont voici les titres. La brigade d'intervention et son opérationnalisation au Nord Kivu, c'est l'un des sujets débattus au cours de la conférence hebdomadaire des Nations Unies mercredi dernier à Kinshasa. Les journalistes conviés à cette rencontre ont exprimé leurs craintes face au renforcement des hommes du M23 autour de la ville de Goma. Que fait la brigade pour empêcher une nouvelle occupation de Goma par le M23? La réponse dans ce magazine. La RDC se dote désormais d'un réseau de journalistes en genre. Cette structure a été mise en place à l'issue d'un atelier organisé mercredi dernier à Kinshasa par l'unité Jean de la MONUSCO à l'intention d'une centaine de professionnels de médias. Les détails dans la rubrique décryptage de cette édition. Enfin, les conflits fonciers sont légion en RDC, notamment dans l'est du pays. Les causes de ces conflits et les stratégies pour les résoudre sont évoquées avec un expert de l'ONU Habitat qui est notre invité dans cette émission.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
À quand l'opérationnalisation de la brigade d'intervention de la MONUSCO? C'est l'une des préoccupations qui est revenue au cours de la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies, mercredi dernier à Kinshasa. Les journalistes présents ont exprimé leurs craintes face aux informations qui font état du renforcement des troupes du M23, non loin des positions de la MONUSCO à Munigi, près de la ville de Goma, dans le Nord Kivu. La MONUSCO tente de rassurer. Les détails avec Jean-Pierre Elali Coco.
Le journaliste venu à la conférence de presse des Nations Unies mercredi dernier font état du renforcement des éléments du M23 aux alentours de Goma et précisément près de Munungi. Munungi, où les casques bleus ont mis un important dispositif pour défendre la vue des Goma. Et selon la presse, les populations de Munungi fuient leurs habitations pour se réfugier à Goma. Cette situation de psychose préoccupe les journalistes. Ils redoutent la malheureuse expérience de novembre au cours de laquelle la vue de Goma était tombée aux mains des rebelles du M23. Alors que fait la brigade d'intervention? À quand son opérationnalisation pour traquer les forces négatives? Le colonel Bassé, porte-parole militaire de la MONUSCO, répond.
À quand l'opérationnalisation de la brigade d'intervention? Je veux dire que la brigade d'intervention est déjà sur place. À peu près 70% de ses effectifs sont déjà déployés et cette brigade a commencé et continue à mener des activités aussi bien autour de la ville de Goma que dans la ville de Goma, avec une partie du contingent tanzanien qui est déjà déployé même jusqu'au niveau de Munigi pour renforcer la position sud-africaine. La brigade, en d'autres termes, est opérationnelle déjà parce qu'elle mène des patrouilles qui entrent dans le cadre global des activités présentes et futures que cette brigade aura à mener.
Des patrouilles seules suffisent-elles pour rassurer les populations? S'interroge encore les journalistes. Le colonel Bassé précise.
Les patrouilles, vous savez, c'est d'abord un mode d'action utilisé dans l'armée. Ça permet non seulement de dominer le terrain, mais d'avoir une présence effective sur le terrain, de recueillir des informations, mais aussi il y a des patrouilles offensives qui sont destinées à engager l'ennemi en cas de rencontre fortuite. Mais nous avons intégré justement ces patrouilles dans le mécanisme global de protection des populations civiles, notamment par notre présence qui est assez dissuasive sur le terrain. L'activité est dissuasive pour les groupes armés. Donc je pense que d'abord, c'est une activité militaire, c'est une activité de sécurisation des populations civiles.
Pour sa part, le colonel Abdou Ndiaye, porte-parole de la brigade d'intervention, a indiqué à Goma que cette brigade est apte à intervenir en cas de menace contre la population, y compris en cas d'attaque de la ville par les M23. Pour rappel, la brigade d'intervention est composée de plus de 3000 hommes de troupes fournies par la Tanzanie, la République sud-africaine et le Malawi. Elle a pour mission de traquer les forces négatives opérant dans l'est de la RDC. Son mandat est d'une année.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Un réseau de journalistes en genre a été mis en place après un atelier de formation en genre et médias organisé le 3 juillet dernier à Kinshasa. Une centaine de journalistes et communicateurs y ont pris part. Cet atelier a été organisé par la section Gender de la MONUSCO en partenariat avec le ministère du Genre, de la Famille et de l'Enfant. Nous recevons à ce propos Fatou Diop, chargée de communication à la section Gender de la MONUSCO. Elle répond aux questions d'Honoré Missinga Kalala.
Madame Fatou Diop, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Il y a un atelier de formation en genre et médias au profit des communicateurs journalistes congolais, un atelier organisé par la section gender de la MONUSCO. D'abord, madame, qu'est-ce que vous entendez par genre?
Bon, le genre, ça dépend de la personne. Il y a certaines qui définissent le genre comme une égalité de sexe. D'autres disent que c'est une égalité des chances. Il y a certains même qui nous disent que c'est une égalité des opportunités, c'est-à-dire donner les femmes les mêmes opportunités que les hommes. Comme vous le savez, bon, moi je prends sur le contexte social, parce que si nous prenons nos systèmes africains, c'est-à-dire nos pays africains, avec nos cultures, nos religions, nos traditions, nos coutumes, avec le système patriarcal que nous connaissons dans nos pays, la femme est un peu derrière l'homme. Donc, moi, j'ai défini en tant que, comme on dit, advocate du genre. Je définis le genre comme, par exemple, quelqu'un qui était là, derrière, et il y a une autre personne qui est devant elle. Donc, on veut prendre celle qui est derrière, d'atteindre celui qui est devant pour qu'ils puissent partir ensemble. C'est ça le genre.
Donc on peut dire que le genre, c'est en fait la promotion de la femme.
La promotion de la femme, on peut dire ça d'un côté. Parce que si vous regardez les sociétés africaines actuellement, la majorité de notre population est féminine. Mais si nous regardons le nombre de personnes qui sont pauvres dans nos pays, quelle est la majorité? C'est les femmes. Donc, dans nos plaidoyers, on dit que les femmes qui sont là derrière, on doit les aider à être... Parce que prenez une balance. Il y a l'autre côté du balance qui est un peu en bas et l'autre est déjà en haut. Et on veut soulever celui qui est en bas pour atteindre l'autre qui est déjà en haut. Pardon. Donc, le genre, c'est pour donner une opportunité aux femmes qui sont les plus vulnérables. Et vous regardez aussi, la femme, elle participe au développement de nos pays. Et mais maintenant, si on veut faire une estimation de la participation des femmes dans le développement, dans le processus démocratique, la femme est toujours derrière. Donc, dans le genre, on dit qu'il faut toujours donner l'opportunité à la femme pour qu'elle soit au même pied d'égalité, ou bien au moins à l'équité avec les hommes.
Alors madame, pourquoi un atelier de formation en genre et médias au profit des communicateurs et journalistes congolais?
Voilà, on a mis communicateurs et journalistes congolais parce que notre cible était les rédacteurs en chef des organes de presse, bien les chefs de programme au niveau de l'audiovisuel, c'est-à-dire les chefs de programme à la télévision ou bien à la radio. Donc parce que ce sont ces gens-là qui prennent les décisions au niveau de nos médias. Donc s'ils ne sont pas sensibles au genre, comment va être le reporter qui est là, on lui donne le micro ou bien la caméra pour qu'il aille faire son reportage. Donc on s'est dit que c'est nécessaire de former ces gens-là parce que la plupart d'entre eux ne sont pas des journalistes. C'est pour cela qu'on a dit formation pour les communicateurs et les journalistes. Donc si ces rédacteurs en chef sont sensibles au genre, on va maintenant, à partir de là, prendre les questions de genre au sein de nos rédactions. Comment on va prendre ça? Dans nos émissions, dans les journaux quotidiens, dans la presse écrite également, il faut qu'il y ait une colonne, comment dirais-je, sur le genre. Parce que pour vous donner un exemple, chez moi, j'étais responsable du colonne genre au niveau du quotidien national de mon pays. Donc, c'est comme ça que nous allons essayer de faire ou bien de mettre les questions de genre au centre de nos rédactions, au centre de nos éditoriaux, au centre de nos biais. Pourquoi pas? L'homme ne peut pas aller sans la femme ne peut pas aller sans l'homme. Donc, ces deux êtres qui doivent toujours partir ensemble, faire les choses ensemble. Donc pour cela, nous disons que c'est très nécessaire de cibler les communicateurs et surtout les chefs qui prennent des décisions au niveau des rédactions.
Oui, oui. Quels sont les objectifs de cet atelier?
Donc l'objectif maintenant, à partir de là, après avoir formé les chefs et les chefs de programme, on va essayer de mettre sur pied un réseau des journalistes sur les questions de genre. Parce que tu ne peux pas écrire quelque chose que tu ne connais pas. Actuellement, si tu es journaliste et tu veux écrire sur le genre, il faut avoir au moins les informations sur le genre, les terminologies, tu dois les savoir. C'est pour cela qu'on dit que c'est nécessaire de les former. Donc, c'est en grosso modo l'objectif. Pour les journalistes comprennent ce qu'est le genre, quelles sont les terminologies du genre, comment aborder un sujet concernant le genre et comment écrire un reportage ou bien faire un papier sur le genre. Donc, je pense que tout ça, c'est nécessaire et c'était pratiquement l'objectif de notre atelier aujourd'hui.
Dernière question, madame. Après cet atelier, concrètement, qu'est-ce qui va se passer?
Bon, après cet atelier, le bureau genre va faire un suivi avec ses journalistes à partir de là, parce qu'on veut qu'ils créent des cellules genre au moins dans les rédactions, dans les organes de presse. Mais ça, c'est quelque chose qu'on ne doit pas leur imposer, ça doit venir d'eux. Donc, on va les écouter tout à l'heure pour voir ce qu'ils ont retenu en tant que recommandation qui va aider, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour mettre sur pied une cellule genre et le réseau national des journalistes congolais sur les questions de genre.
Madame Fatou Diop, merci.
C'est moi qui vous remercie. Thank you.
Nous ouvrons cette page de nouvelles en bref par cette action du contingent népalais de la MONUSCO. Il a construit une maternité à l'hôpital général d'Oicha, une cité située à 30 km de Beni, au nord Kivu. Cette maternité d'une capacité de 21 lits, la remise de cet ouvrage a eu lieu mercredi 3 juillet dernier. Les travaux de sa construction ont duré un mois pour un coût de 21 000 dollars américains. De Beni, allons à Isangi et à Basoko en province orientale où les femmes de près de 20 000 ménages dans 60 villages sont impliquées dans un projet de promotion de la sécurité alimentaire. Il s'agit d'un projet de la FAO financé par le Fonds international pour le développement agricole, FIDA, à hauteur de 700 000 dollars américains. Enfin, protection de l'enfance, un atelier a réuni jeudi 4 juillet à Kinshasa, avocats, magistrats, greffiers et assistants sociaux, notamment pour une réflexion sur l'accompagnement judiciaire des enfants en conflit avec la loi. Cela depuis mise en place des tribunaux pour enfants. Objectif global de cet atelier, améliorer la qualité de cet accompagnement par les barreaux de Kinshasa avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF. Le 31 mai dernier, le Premier ministre Matata Ponyo a signé un arrêté portant création de la Commission nationale de réforme foncière, CONAREF en sigle. Deux mois après, l'opinion s'interroge sur les innovations apportées dans un secteur aussi chaotique que le foncier, ainsi que sur la contribution de l'ONU Habitat dans cette réforme. Les causes des conflits fonciers et les stratégies pour les résoudre sont aussi abordées par Oumar Sylla. Il est conseiller technique principal à l'UN Habitat. Il s'entretient au téléphone à partir de Goma avec Jean-Pierre Elali Coco.
Oumar Sylla, bonjour.
Bonjour.
Le 31 mai dernier, le Premier ministre a pris un décret portant création de la Commission nationale de la réforme foncière, CONAREF en sigle. Ce texte cite parmi les membres deux délégués des partenaires. Et c'est dire que l'ONU Habitat est appelé à jouer un rôle important dans le processus de réforme.
Tout d'abord, faisons un peu d'historique, parce que ce décret est sorti dans long processus suite à la déclaration du président de la République au mois de novembre ou décembre 2011, déclaration à l'issue de laquelle il avait déclaré le besoin pour la RDC d'atténuer les conflits fonciers, mais surtout d'évoluer vers une réforme foncière. Et c'est suite à cela qu'un ministre a été assigné la tâche d'entreprendre ce processus de réforme. Et UN Habitat a été invité à Kinshasa en 2011-2012. Suite à une discussion qu'on a eue avec le ministre, il était question que cette réforme commence. Mais comment commencer la réforme, c'était la question principale. Parce qu'une réforme foncière doit être participative, inclusive, mais aussi tenir compte de toutes les considérations ethniques, politiques et sociales du pays. Le ministre a lancé un processus de consultation nationale à l'issue d'un atelier national qui a été tenu à Kinshasa en juillet 2012, qui a réuni toutes les parties prenantes du secteur foncier en RDC, de toutes les provinces. Et il est sorti de cet atelier national une feuille de route qui détermine les différentes étapes que la RDC doit suivre pour entreprendre une réforme foncière. Un élément important de cette feuille de route, c'était une structure multisectorielle et inclusive qui va piloter la réforme. Et c'est ça qui a mené à la proposition de ce décret portant constitution de la CONAREF, qu'on appelle la Commission nationale de réforme foncière.
Quelle innovation apporte ces textes dans les secteurs aussi chaotiques que les fonciers?
Il y a un constat à faire pour pouvoir apprécier l'innovation apportée par ce texte. Première chose, le foncier est transversal, donc il est partagé entre plusieurs ministères. Le ministère des Affaires foncières a le lead, mais aussi il y a le ministère de l'Environnement. Aujourd'hui, il y a un conflit entre les licences minières et les licences foncières. Mmh. Il y a un conflit entre les licences forestières et les licences foncières. Un autre aspect aussi, aujourd'hui, ce qui me frappe le plus en RDC, avec toutes les potentialités foncières qui existent, le fait que la RDC n'a toujours pas recouvré, si vous voulez bien, son autosuffisance alimentaire due à une sous-exploitation des terres. L'autre aspect aussi qu'il faut évoquer, c'est ce conflit entre coutume et loi. Nous qui sommes à l'est de la RDC, nous vivons ça au quotidien.
C'est surtout ça.
Il y a une loi de 1973 qui a été mise en place, mais cette loi est tenue en échec par les pratiques coutumières. Donc ce qui veut dire que l'innovation apportée par ce décret, c'est de constituer un cadre de concertation au niveau national pour discuter les ensembles orientations qu'on peut mettre en place pour trouver des solutions à cette problématique foncière. Ce n'est pas seulement une problématique de stabilisation de paix, mais c'est une problématique de développement. Aujourd'hui, les investissements sont ralentis parce que le régime foncier n'est pas approprié. Les investissements sont ralentis parce que beaucoup de terres sont en conflit. Ce qui est important aussi, c'est cette volonté politique qui est derrière ce décret.
Est-ce qu'un mois après, cette commission nationale de la réforme foncière fonctionne déjà?
Le processus est en cours. Nous-mêmes, on a reçu une lettre du ministère. Il est en train de contacter chaque ministère pour désigner un membre. Et d'après ce qu'on a reçu du ministère, la commission va mettre en place au plus tard mi-juillet. La semaine dernière, nous avons travaillé sur le plan stratégique de cette réforme foncière. Et ce plan est presque bouclé et soumis à la table du ministère pour approbation.
Monsieur Omar, vous avez une certaine expérience. Dans quelle partie du pays les conflits fonciers sont-ils les plus fréquents?
Les conflits fonciers sont répandus dans tous les pays, mais au niveau de l'Est, il y a un grand nombre. Nous, UN Habitat, depuis 2009 jusqu'à maintenant, on a enregistré plus de 4000 conflits fonciers dans notre base de données sur les trois provinces, Sud-Kivu, Nord-Kivu et la province orientale, ce qui démontre une grande proportion de ces conflits fonciers est liée à l'instabilité de la zone, lié au mouvement de population, mais lié aussi à certains dysfonctionnements de l'administration foncière.
Dans un document que vous venez de publier, les nombres de conflits résolus par ONU Habitat sont passés de 781 en 2012 à seulement 298 au premier semestre 2013. À quoi attribuez-vous cette performance, M. Omar?
Nous faisons un monitoring des conflits fonciers parce que aussi nous travaillons en étroite collaboration avec la MONUSCO-CAF. Avec le HR, nous avons des systèmes de référence mutuelle, mais aussi nous accompagnons le gouvernement provincial parce que UN Habitat, lui seul, ne fait pas la résolution des conflits fonciers. C'est pas dans notre mandat. Nous devons faire l'appui technique, faciliter en quelque sorte. Et ce que nous faisons avec le gouvernement provincial, avec les structures locales, parce qu'aujourd'hui, dans le Sud-Kivu, nous travaillons avec l'ONG APC, que nous appuyons les CDM, ce qu'ils appellent les centres de médiation et de dialogue au niveau du territoire de Calais et qui font un travail extraordinaire et qui créent actuellement une résilience et un lien avec les communautés de base. En Ituri aussi, UN Habitat appuie la commission foncière de l'Ituri et nous avons appuyé l'ouverture des antennes au niveau de plusieurs collectivités de l'Ituri avec l'implication des communautés locales parce que la base de ce processus, c'est l'appropriation. Nous, en tant qu'agence des Nations Unies, nous devons œuvrer pour la durabilité, nous devons travailler pour l'appropriation communautaire et la résilience et permettre à ces communautés eux-mêmes d'avoir une certaine indépendance, une certaine autonomisation dans la gestion des conflits.
Monsieur Omar, une dernière question à vous entendre parler, c'est qu'il y a des défis liés à la gestion des conflits foncier. Quels sont ceux qui, selon vous, semblent être à votre portée?
Le premier défi que je vais évoquer, c'est l'engagement politique. Aujourd'hui, on est content que le ministre des Affaires foncières prenne le lead sur la question de la réforme et qu'au niveau provincial aussi qu'il y a une bonne dynamique. Parce qu'aussi, on ne saurait pas changer ou améliorer la gouvernance foncière, ça c'est une volonté politique. Quelle que soit la bonne volonté des agences des Nations Unies et des acteurs de développement qui appuient le processus, tant qu'il n'y a pas une volonté du gouvernement de changer les choses, là, parce que c'est une question de bonne gouvernance, c'est une question de transparence. Un autre défi qui nous concerne au niveau de l'Est, c'est de relancer le dialogue communautaire, qui est à la base aussi de recherche de solutions durables à la problématique foncière, parce que l'aspect identitaire et l'aspect communautaire sont derrière ces conflits fonciers. L'autre défi aussi, c'est la redynamisation de l'administration foncière. Tant que cette administration foncière n'a pas les moyens de sa politique, on sera toujours confronté à des risques de déviation, de manipulation. C'est vrai que les gens parlent de dimension communautaire, mais aussi la terre a acquis une valeur monétaire. Finalement, nous tendons vers une compétition plus économique et plus monétaire de cette contrôle foncier que communautaire. Et ça, c'est des évolutions qu'il ne faut pas perdre de vue. C'est pour ça que, chemin faisant, il faut qu'on donne un accent particulier à cette administration foncière pour la rationaliser, la moraliser et la rendre plus efficiente, puis qu'il contribue à la sécurisation des droits fonciers des Congolais et non à l'insécurisation foncière. L'autre défi aussi, c'est effectivement toute cette dimension relative à cette réconciliation entre loi et coutume. Aujourd'hui, on ne saurait pas faire une réforme foncière sans travailler avec les chefs coutumiers, sans travailler avec la société civile. Je pense que c'est dans ce sens-là que cette démarche inclusive et décentralisée peut être une panacée en quelque sorte pour créer un cadre propice de dialogue entre toutes les parties prenantes au Congo pour discuter des problèmes de famille relatifs à la gestion foncière, mais aussi pour des problèmes de la nation relative à la gestion foncière. Sans une assise foncière, sans un régime foncier, les investissements vont être bloqués, mais aussi on aura du mal à promouvoir la paix et la stabilité dans cette partie est de la RDC.
Monsieur Oumar, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, Jean-Pierre.
Notre nouvelle en province nous emmène à l'Équateur où le centre congolais anti-mine avec le centre de coordination des activités de lutte anti-mine des Nations Unies UNMAC ont lancé à Guémena l'enquête pour la détection des mines antipersonnelles et des sous-munitions. Cette enquête que va mener l'ONG de sous-traitance MAG, Mine Advisory Group, cible les zones qui ont été le théâtre des affrontements armés dans le sud Ubangi. Pourquoi le choix du sud Ubangi? Élément de réponse dans ce reportage de Dominique Wolombimunga Pangé.
Le sud Ubangi a été le champ de bataille de la guerre de libération de l'AFDEL, Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo, de la rébellion du MLC et tout récemment de l'insurrection du Emilia. Pendant les hostilités, les belligérants ont planté contre l'ennemi, notamment des mines antipersonnelles et abandonné des sous-munitions. Voilà pourquoi les centres congolais pour la lutte anti-mine et les centres de coordination des activités de lutte anti-mine des Nations Unies, UNMAC, ont lancé cette opération pour la détection de toutes les zones qui ont été les théâtres des affrontements entre les belligérants. Cette opération est exécutée par l'ONG de déminage MAC, Mine Advisory Group, en partenariat avec la Croix-Rouge locale. Pour ce faire, une réunion a regroupé le week-end dernier les autorités du district, du territoire et de la cité de Guémena, les membres de la société civile et les responsables des confessions religieuses. C'était pour les sensibiliser à détecter ces endroits. Cette opération a pour but de faire la cartographie de tous les lieux qui ont été les théâtres des hostilités entre les belligérants dans les districts d'ici d'Ubangi, de créer un fichier de toutes les informations des zones d'affrontement et des cantonnements des troupes. Elle consiste également à identifier les personnes victimes des mines pour leur prise en charge. La sensibilisation de la population à cette opération a été faite simultanément dans les quatre secteurs de Guémena. Après Guémena, l'UNMAC et l'UNGMAC vont mener la même activité dans les territoires des Kungu et des Libengue qui ont connu aussi des affrontements. Mbandaka, Dominique Olombimonga Pangé, Radio Okapi.
Magazine des Nations Unies. Portrait du jour.
Je m'appelle Denise Maeo Moissi. Je suis aînée d'une famille de 7 enfants, dont un seul garçon. Je suis mariée et mère de 2 enfants. Peut-être pour certaines personnes c'est peu, mais bon, j'ai 2 enfants. J'ai fait l'école primaire à Moba. C'est là que j'ai fait aussi mon école secondaire. À l'époque, c'était un internat à Al-Fadjiri. Et puis, j'ai fait le droit privé judiciaire. Du droit, je suis passé comme ça, au journalisme. Je n'ai même pas pratiqué ma profession de juriste, mais quand j'ai fini, j'ai été recruté à la RTNC. Au moment où la RTNC commençait à Kalimi, c'était en 1997, donc j'ai fait partie de la première équipe qui a commencé la RTNC là-bas. J'ai travaillé là pendant 7 ans avant de passer de la RTNC à la Radio Okapi. Et donc à la Radio Okapi, je suis là, ça fait 11 ans, comme la radio a fêté son 11e anniversaire. Donc, je fais partie de ceux qui avaient été recrutés dès le début en 2002. Je fais ton travail, je suis journaliste, reporter. Comme tout journaliste, la journée commence par un conseil de rédaction où on vient proposer le sujet. Et puis, on descend sur terrain pour récolter des informations. On revient à la rédaction. On a une autre réunion de mise au point l'après-midi. Et puis, bon, on se met au travail pour passer à l'antenne. Comme on est en province, on a un décrochage provincial. Mais en même temps, on alimente la rédaction centrale durant toute la journée dans les différentes émissions. Avant d'être à la RTNT, j'ai aussi enseigné. Alors, comment je gère mon temps libre? D'abord, il faut savoir est-ce que j'ai du temps libre, parce que je passe ma journée entière à la radio, mais c'est vrai que je retrouve à la maison, c'est le plaisir d'être en famille avec, comme j'ai dit toujours, mon petit monde. Et je consacre ce temps libre à m'occuper donc de mon petit monde, de mon mari, de mes enfants. J'aime bien écouter de la musique. Pas de musique particulière, mais ça dépend des circonstances. C'est vrai que quand je suis à la maison, j'aime bien la musique douce, mais ce qui m'intéresse surtout en musique, c'est le fond, le contenu de la chanson. Et donc je peux écouter du Werason, si c'est le fond qui m'intéresse, je peux écouter Jean Goubal, je peux écouter Céline Dion, ça dépend. En fait, j'ai appris à aimer le football. Au début, ça ne me disait rien. Mais étant donné que j'ai un mari qui aime beaucoup le football, j'ai appris à aimer le football et même à suivre des matchs de football à la télévision du début à la fin, alors que avant ça, je ne le faisais pas. Bon. Le football, ça me passionne pour l'instant. Mes projets d'avenir, peut-être me retrouver dans une mission autre que la Monusco et peut-être plus tard m'occuper de mes activités personnelles. Ça fait toujours plaisir d'être autonome et indépendant à un certain moment de la vie.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
La question de ce dimanche nous vient de Kalemi Sivé.
Je m'appelle Roger Camoignan. Je suis activiste des droits de l'homme à Kalemi. Ma question s'adresse à Ocha. Nous avons suivi sur les antennes de Radio Kapi que le choléra sévit dans la province du Katanga et que les humanitaires sollicitent un appui d'environ 2 millions de dollars pour lutter contre l'épidémie. Quelle est actuellement l'évolution de la situation sur le terrain? Quels sont les principaux besoins? Et où sommes-nous avec les demandés? Merci.
Merci Roger. Pour vous répondre, nous avons approché Sylvestre Ntumba Mudzingai, chargé de communication à Ocha. Voici sa réponse.
L'appel a été lancé, il suit son cours. Les besoins évalués sur les terrains sont énormes et il y a des besoins qui sont en train de trouver une réponse en ce moment parce qu'il y a des partenaires qui répondent en matière de chloration. Il y a des partenaires qui sont mobilisés pour la sensibilisation. Il y a des partenaires qui sont, notamment l'UNICEF avec certains partenaires, qui sont là pour la chloration de l'eau et l'accès à l'eau potable. Il y a l'OMS qui appuie pour les centres de traitement de choléra où les malades sont pris en charge médicalement. Le choléra, c'est essentiellement une maladie qui survient à cause du manque d'accès à l'eau potable et à cause de certaines habitudes ou certaines habitudes, oui, en matière d'hygiène. Mais les efforts qui sont sur le terrain ne couvrent pas tous les besoins. Il faut élargir l'action qui est en cours en ce moment. C'est pourquoi on a estimé qu'il fallait une enveloppe financière supplémentaire pour essayer de couvrir l'ensemble des besoins. On espère que les bailleurs qui ont généralement répondu aux appels de la communauté humanitaire réagiront pour qu'on puisse répondre à ces besoins-là.
Merci Sylvestre. Nous espérons que Roger de Kalemi et tous les auditeurs sont satisfaits de cette réponse.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Kapi.
Deux dates à retenir la semaine prochaine dans vos agendas, le 9 et le 11 juillet. Le 9, ce sera la journée de la destruction des armes légères et le 11, la journée mondiale de la population. À retenir aussi du 11 au 13 juillet, selon un communiqué conjoint gouvernement congolais, OMS, UNICEF, ce sera le premier passage des journées nationales de vaccination. C'est la fin du magazine des Nations Unies de ce dimanche. Merci d'avoir suivi cette émission, supervisée par Nicole Ngaka, coordonnée par Jean-Pierre Elali Koko, Honoré Missenga était au reportage. Moi, Mila Kimbwini, j'étais derrière le micro avec l'assistance technique de Willem Lungamba du côté de la régie pour cette émission que vous pouvez aussi retrouver sur Internet sur www.radiokapi.net. Vos suggestions, vos questions ou vos remarques, faites-nous les parvenir en appelant au 082 30 76 630, en postant un commentaire sur le site Internet en dessous du magazine des Nations Unies ou encore en nous envoyant un mail à notre adresse maguen@radiokapi.net. Encore une fois, merci de nous avoir suivis et excellente journée dominicale à tous. Au revoir.